La table ronde qui va commencer maintenant réunira Cécile Debray, conservatrice générale du patrimoine, directrice du musée de l'Orangerie, Pierre Zingaravelou, historien, professeur au King's College de Londres et à l'Université Paris 1, Aude Fanlot, qui est responsable du département recherche et enseignement au MUCEM, et Sébastien Gocalp, directeur du musée de l'immigration. La parole est à vous pour un premier temps de présentation, pour que vous nous expliquiez un petit peu à partir de vos expériences différentes, qui peuvent être celles de commissaire d'exposition, de responsable de manifestations scientifiques, d'historien investi dans des activités de programmation scientifique et culturelle au sein des musées. Comment cette question de la diversité est saisie au prisme de vos institutions? Et ensuite, sur la base des réflexions que chacun d'entre vous aura présentées, la discussion collective pourra s'engager. Cécile Debray, je vous donne la parole pour ouvrir cette table ronde.
Merci, merci tout d'abord de votre invitation. J'imagine effectivement que vous m'avez invité au regard en fait de la programmation qui a eu lieu ces dernières années au musée de l'Orangerie et au musée d'Orsay. Je pense évidemment à l'exposition sur le modèle noir, mais également, et c'est ce que je vais, voilà, en quelques minutes évoquer, un peu ces questions de programmation qui au musée de l'Orangerie tournent autour de la question des sources d'art extra-occidental en art moderne, hein, qui sont vraiment au cœur de la collection Paul Guillaume, mais qui ont donné lieu à plusieurs expositions. Je vais peut-être juste évoquer comment cette programmation a pu modifier ou en tout cas remettre en question certaines pratiques de notre métier de conservateur ou de commissaire dans des musées beaux-arts, des musées plutôt traditionnels. Et peut-être juste pour appuyer mon propos qui va être assez général, je vous invite à me suivre à travers quelques images d'expositions récentes. Effectivement, la question des sources africaines ou océaniennes dans l'histoire de l'art moderne, si cette question est largement étudiée dans le cadre universitaire par les historiens d'art, par les chercheurs, elle est plus difficilement présentée au sein des musées d'art moderne. Et à cela, il y a sans doute un fait ou en tout cas un événement qui a été, on peut utiliser le terme presque traumatisant dans l'histoire des musées d'art moderne, c'est la fameuse exposition de William Rubin en 1984 au MoMA, Primitivism in 20th Century Art, Affinity of the Tribal and the Modern. Donc c'est cette exposition qui mettait en face à face des œuvres d'art africain et d'art océanien face à des œuvres d'art moderne selon une lecture assez formaliste, qui était une magnifique exposition, a créé une véritable polémique sur la manière dont l'art africain ou l'art océanien avait été en quelque sorte perçu comme instrumentalisé au profit d'une lecture occidentale, moderniste et impérialiste, hein, et venait finalement rencontrer un climat de je dirais de conflits raciaux aux États-Unis qui est aujourd'hui tout à fait réveillé hein, à travers les Black Lives Matter, et on a vu les conséquences ces derniers temps sur le report notamment de l'exposition Guston à propos notamment de ces tableaux qui étaient pourtant en faveur, je dirais, d'un débat contre le racisme, ces tableaux où l'artiste se représente sous la cagoule Ku Klux Klan. Donc, cette question des sources pour l'art moderne, si elle a été un peu explorée, même bien explorée, hein, par le musée du Quai Branly. Elle est quasi absente des collections permanentes du Centre Pompidou hein, en art moderne, absente également du musée d'Orsay, et là je pense plutôt à l'art océanien qui est découvert un peu plus tôt, notamment avec Gauguin. Donc ces questions sont à peine sont un peu évoquées, mais sont quand même très peu montrées dans les musées et encore moins aux États-Unis depuis la polémique autour de l'exposition de William Rubin. Et donc, quand je suis arrivée au musée de l'Orangerie, on s'apprêtait à montrer une exposition d'Ada Africa qui explorait, je vais vous montrer des images, qui explorait les liens entre Dada, le mouvement Dada et l'art africain. Et à cette occasion, on a pu montrer le rôle qu'a joué Paul Guillaume dans cette circulation, cette diffusion de l'art africain dans les milieux des avant-gardes modernes. Et donc, quand il s'est agi de reprendre la présentation des collections permanentes du musée de l'Orangerie, il m'a semblé absolument essentiel de placer ce petit musée de l'Orangerie comme une sorte de scène expérimentale, muséale, hein, sur cette question du lien entre l'art africain et l'art océanien et l'art moderne, en faisant revenir au sein de ce musée des pièces de l'ancienne collection Paul Guillaume, grâce à la complicité des équipes du musée du Quai Branly, puisque la plus grande part de cette collection a été donnée en 1941, d'ailleurs la date pose question, c'est quelque chose qu'on va essayer de creuser, par la veuve de Paul Guillaume. Et donc on a réuni à travers cette petite salle, avec une sélection assez resserrée d'objets océaniens et africains, on a pu redonner, en tout cas réévoquer, la place de Paul Guillaume dans cette histoire. Et c'est intéressant parce que beaucoup de mes collègues américains sont venus voir, ont suivi avec intérêt cette question. Sachez qu'aux États-Unis, en fait, ce parallélisme en fait n'est fait, je crois, que dans une seule institution, sans doute que je simplifie trop la réalité, mais ça pour le coup c'est évident que c'est à la Fondation Barnes à Philadelphie que ces rapprochements sont faits sur Simez. C'est évidemment la suite aussi de l'œuvre de Paul Guillaume, qui a été un des grands conseillers du docteur Barnes. Donc, vous voyez que dans la nouvelle présentation, qui malheureusement n'a pas été beaucoup vue puisque elle a été ouverte entre les deux premiers confinements, j'espère que vous pourrez le visiter un peu plus largement bientôt. On fait donc ce lien avec les arts extra-occidentaux et la collection d'art moderne. Je vous montre donc cette exposition d'Ada Africa. C'est un peu toute la lignée, toute la programmation du musée de l'Orangerie qui s'attache pour un axe, en tout cas très appuyé, à revisiter l'action de Paul Guillaume. Donc, à travers cette exposition d'Ada Africa en 2017, Le dialogue avait été largement déployé, puisque c'était le propos de l'exposition, et c'était assez passionnant puisque ça s'est fait tout autant par rapport à des rapprochements visuels, mais des rapprochements sonores également sur tout le travail au langage, et également à travers des vidéos qui montraient également des pionnières de la danse moderne qui s'inspiraient également de danse tribale. Donc vraiment le propos était assez global et a permis de montrer cet intérêt très approfondi de la part de ces générations qui sont frappées de plein fouet par la Première Guerre mondiale. Donc, je ne reviens pas sur le propos, il est plus complexe que cela, mais c'est évidemment pour poser un peu les termes de ce débat sur la représentation de la diversité. Dada, c'est aussi un questionnement sur le genre, avec la place des femmes qui est très importante, la question du corps, la question de l'altérité, politique également, hein, évidemment, et qu'on a pu montrer à travers cette exposition. J'ai saisi l'opportunité de ce projet pour montrer pour la première fois au musée de l'Orangerie, je venais d'arriver, des artistes contemporains, et à l'occasion de Dada Africa, où il y avait une forte présence notamment des œuvres de Sophie Teuber-Harp, il m'a semblé très intéressant de montrer des œuvres de Otobong Kanga, qui est cette artiste nigérienne qui a beaucoup travaillé sur la question des ressources notamment minières de son pays et de son exploitation par des compagnies issues de la mondialisation et d'une certaine forme d'impérialisme occidental, et ses dessins qui faisaient penser beaucoup au dessin de Sophie Teuber-Harp, avec une même pluridisciplinarité dans son travail, puisqu'elle travaille aussi sur la broderie avec des tapisseries, des dessins, des performances captées par la vidéo. Et là, ce qui était intéressant, c'était de voir effectivement ces sortes d'allers-retours entre des artistes occidentaux des années 20 ou des années de la guerre qui vont s'inspirer de l'art africain, et vice-versa, Otobong Kanga, qui est une grande artiste qui réfléchit vraiment à la question du statut de son pays, de l'identité nigériane, et qui va dialoguer avec aussi ces sources occidentales que sont des artistes dada. Donc, c'était déjà une manière de reprendre un dialogue, de se placer finalement, et c'est aussi pour lancer cette réflexion sur notre profession en tant que commissaire et même directeur de musée, c'est comment l'art contemporain ou le regard contemporain permet aussi de nous interroger sur notre manière d'écrire l'histoire de l'art. Et je vais en venir. Alors là, vous voyez une série de dessins où vraiment c'est très frappant, avec ce machinisme qui nous renvoie beaucoup à l'univers de certains photomontages, collages de la période dada des années 20. Et donc, quand je parlais de la place du contemporain, il est évident que une exposition comme le modèle noir de Jericho à Matisse, donc qui était une grande exposition que nous avons organisée au musée d'Orsay en 2019, a beaucoup permis de remettre en cause, en tout cas de remettre en cause notre position de commissaire ou de conservateur du patrimoine dans notre manière d'écrire l'histoire de l'art. Alors, si la question du primitivisme, des influences africaines ou océaniennes dans l'art moderne sont des questions déjà bien étudiées au sein de l'histoire de l'art académique, La question de la représentation des Noirs est en revanche quelque chose de plus récent, toutefois bien ancré dans les études postcoloniales universitaires, mais qui évidemment a beaucoup moins franchi le seuil des musées des beaux-arts traditionnels. D'où l'intérêt pour cette exposition du modèle noir. Son intérêt réside évidemment dans son positionnement au sein du musée d'Orsay qui, par cette, comment dire, cette manière de s'interroger sur la représentation des premières communautés noires parisiennes au XIXe siècle. Donc, il y avait évidemment un intérêt historique de revenir sur cette histoire du statut de ces communautés noires dans la société parisienne, française du XIXe siècle. Elle permettait de relire, de redonner des jalons historiques, donc notamment de la question de l'esclavage, de son abolition pendant la Révolution française, puis de son rétablissement sous Napoléon, et ensuite de tout le caractère politique qui a de cette question. Et là, il y a vraiment un écho très fort avec The Black Lives Matter, puisque sous la Restauration à Paris, la question de l'esclavage était un marqueur politique. Et Géricault, par exemple, qui était un artiste qui se plaçait plutôt à gauche, s'est saisi de cette question, je dirais, comme aussi une forme d'identité politique pour lui. Et on a pu montrer des tableaux tout à fait étonnants de Géricault, très, très fort. Et évidemment, le point de bascule ou de questionnement sur ce que veut dire la modernité en art et ce que veut dire la modernité en politique se situe autour de ce fameux tableau de Manet, Olympia, où l'on voit donc cette femme blanche, courtisane, prostituée, qui est donc représentée sur son lit, avec cette servante noire qui lui tend un bouquet. Donc il y a toute cette relation de la maîtresse à la servante, la représentation de cette servante noire dont on ne s'est jamais interrogé sur l'identité du modèle, alors qu'on connaît parfaitement bien le modèle de l'Olympia. Bref, il y a eu toute une enquête autour de ce tableau qui nous a permis de poser cette question de la représentation, de l'anonymat des modèles noirs qui posaient, et d'essayer de retrouver leur histoire, de leur redonner finalement une sorte d'identité, et surtout de s'interroger sur cette question de qu'est-ce qui fait la modernité d'un tableau dans la forme de dignité qu'on confère au modèle. Et donc ça a été tout un débat. Je vais pas aller plus loin c'était une très grosse exposition. Moi, j'étais en charge de la partie 20e de cette exposition. Sachez qu'elle a été elle a été issue d'un projet initial qui était porté par Denise Merel, une historienne d'art américaine issue de Harlem et qui avait un projet extrêmement original, moi qui m'a beaucoup séduite à l'époque. C'était vraiment de parler de cette représentation d'un modèle noir plutôt femme depuis Manet jusqu'à Matisse. Donc c'était vraiment les deux figures importantes, et donc elle a fait ce projet à New York, à la Wallach Art Gallery, vraiment sur cet axe plus féministe et plus axé sur Manet et Matisse. Et en France, donc à Orsay, on a préféré en fait faire une exposition beaucoup plus générale, presque plus pédagogique, dans un contexte où finalement jamais une exposition de ce type s'était tenue dans un musée des beaux-arts traditionnels, avec les chefs-d'œuvre de la collection d'Orsay. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais peut-être pour résumer, pour ne pas monopoliser la parole, ce qui a été très intéressant dans cette expérience de commissariat, c'est d'abord qu'on a dû s'interroger sur les titres des tableaux qui étaient heurtants, enfin qui ne pouvaient pas convenir aujourd'hui à l'état de notre position par rapport à cette question, c'est-à-dire on pouvait avoir des tableaux qui s'intitulaient Portrait de négresse ou Portrait de noir, et donc on a eu toute une réflexion sur la terminologie, sur la manière de nommer ces tableaux. On s'est entouré évidemment d'un conseil scientifique. Pourquoi ? Parce que là aussi il y a une sorte de questionnement qui a été très très intense pour nous. C'est que si Denise était issue de Harlem et avait une forme de légitimité pour s'emparer de ce sujet, et là je rejoins donc tous les débats autour de l'appropriation, il est vrai que notre équipe de commissaires était très blanc, très français, je dirais même issu d'un milieu culturel et social privilégié, et que on a été frappé en tout cas par l'homogénéité, la fermeture de notre milieu professionnel. Et donc on a estimé qu'il était important de s'entourer de voix peut-être plus oui, j'ose le terme, plus légitimes, plus concernées. Et donc on a fait appel à Pape Ndiaye, on a fait appel à Annie Lebrun pour leurs compétences sur ces questions, hein. Ce sont des spécialistes de ces questions au niveau universitaire. On a pu travailler également avec Abdel Malik. Enfin, on s'est entouré d'ambassadeurs en fait de cette question, et on a pu avec eux nous questionner sur la manière d'écrire sur cette histoire, de travailler également sur la médiation autour de ces questions. Et encore une fois, donc là je passe les photos, on a une très belle salle Matisse, et je voulais conclure encore une fois, et ça c'est quelque chose qui m'a toujours semblé très important, encore une fois, ces voix contemporaines, c'est qu'on a conclu le propos avec une œuvre d'Hélène Gallagher qui a évidemment, à travers cette œuvre, Odalisque de 2005, pouvait un peu résumer le propos en se mettant elle-même en scène dans un pastiche où elle rejouait en fait comme un tableau vivant une toile de Matisse, mais au lieu, elle a remplacé la tête alors du modèle par la sienne, et celle du peintre Matisse par celui de Freud, voilà, qui était une sorte de beau résumé de cette question d'altérité, d'identité, qui peut parler de quoi et comment on le fait. Et bien souvent les artistes contemporains offrent la meilleure, je dirais, la meilleure médiation, le meilleur porte-voix pour faire ce lien avec un sujet historique et l'audience, le monde actuel auquel on s'adresse. Merci à vous.
Merci beaucoup Cécile Debray. Pierre Sangaravelou, je vais maintenant vous passer la parole parce que l'intervention de Cécile Debray nous a introduit déjà certains des sujets, certains des questionnements que vous pourrez porter. Il a été question des relations qui s'établissaient entre les études postcoloniales et les grandes institutions telles que les musées. Vous êtes universitaire, vous êtes historien, spécialiste des sciences coloniales au départ et ayant ensuite très largement élargi votre champ de recherche aux questions de la mondialisation. Et en même temps, vous avez travaillé avec le musée d'Orsay, vous avez conçu ce cycle de conférences intitulé les mondes d'Orsay. Comment, depuis la position universitaire, peut-on envisager ces questions de coopération avec le monde des musées sur ces sujets ?
Merci beaucoup Christian, et merci à toute l'équipe de l'INP pour cette invitation. Je dois avouer peut-être pour commencer ma perplexité face à cette question, voire à cette injonction, exposer la diversité et s'engager. Donc je n'épiloguerai pas d'abord sur le flou de la définition de ce concept de diversité depuis ses origines états-uniennes jusqu'à ses usages français. Je n'adopterai pas non plus la démarche normative de nos institutions administratives qui entendent promouvoir la diversité dans le cadre précis de leur politique de lutte contre les discriminations. De mon point de vue, Christian, celui du chercheur et plus précisément celui de l'historien, ce qui requiert mon attention, ce qui suscite mon intérêt depuis de nombreuses années, c'est, pour le dire très rapidement et un peu schématiquement, c'est la diversité des points de vue. Tenter de restituer la diversité des points de vue, c'est l'une des vocations de ce qu'on appelle l'histoire globale ou l'histoire mondiale, qui est un projet historiographique qui a pour origine une injonction moins politique que savante, en réalité. Nous partons du principe que l'histoire du monde, pour être plus complète, pour être l'histoire de tous, doit s'efforcer de restituer et de comprendre idéalement tous les points de vue des femmes et des hommes du passé. Donc il faut, dans ce cadre intellectuel, faire varier les perspectives, essayer de restituer les points de vue des différentes classes sociales, par exemple, des femmes, des enfants, des différentes régions du monde, etc. Donc on comprend assez aisément que cette entreprise historiographique ne peut être que collective, c'est-à-dire que le temps de l'historien solitaire qui rédigeait seul de sa plus belle plume l'histoire de France depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, eh bien ce temps est révolu et il est désormais nécessaire de mobiliser et d'associer des spécialistes de tous les horizons, des conservatrices, des conservateurs, des historiens, évidemment des historiennes et des historiens de l'art, pour donner à entendre les voix émanant des innombrables archives éparpillées sur toute la planète, des archives qui sont, par définition, écrites dans toutes les langues. Mais cette histoire mondiale, il faut bien admettre qu'elle peut être contre-productive, surtout si elle prend la forme d'une espèce de méta-récit, ou du moins de récit macro, ce qu'on appelle aux États-Unis la « big history », c'est-à-dire une espèce d'histoire totalement hors sol, désincarnée. C'est même une histoire, l'histoire globale, qui peut s'avérer dangereuse si elle adopte la forme d'un récit téléologique, un récit téléologique qui serait celui de l'uniformisation progressive de la planète, qui aboutirait irrémédiablement à la mondialisation actuelle. C'est pourquoi l'histoire globale, telle que je l'entends avec nombre de mes collègues en France, en Grande-Bretagne, un peu partout dans le monde, cette histoire globale ne doit pas être le contraire de la micro-histoire. Il convient d'abandonner ces grandes fresques surplombantes. Il faut renoncer aux périodisations hors sol, aux concepts très englobants qui généralisent excessivement et qui aboutissent nécessairement, ou disons qui aboutissent bien souvent à un récit européo-centré. De cette manière, les historiens ont commencé à questionner les grandes catégories de l'entendement historique. Ces catégories de l'entendement historique qui font la part belle aux façons de voir, de penser, de ressentir des Européens à partir du XVIIIe siècle. En effet, à l'échelle du monde, que signifie le découpage en siècles, le découpage en grandes périodes, les grandes périodes canoniques, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Modernité, l'époque contemporaine, des grandes périodes qui ont été exclusivement forgées, faut-il le rappeler, pour scander le devenir de l'Europe. Que signifie, en dehors des pays occidentaux, des catégories et des concepts inventés par les élites européennes pour penser les sociétés occidentales à partir du XIXe siècle ? Cela conduit les historiens à réinterroger aujourd'hui la signification à l'échelle du monde de concepts aussi différents que l'État-nation, la bourgeoisie, la modernité, les aires culturelles ou encore la révolution industrielle en dehors des frontières mêmes de l'Europe ou de ce qu'on appelle aussi l'Occident. En fait, l'histoire globale se révèle être un lieu privilégié de réflexion sur l'écriture d'un récit à la fois plus complet et d'un récit plus sensible aux autres manières d'appréhender le monde. Alors, comment concrètement mettre en œuvre cette approche ? Eh bien, c'est ce que nous avons tenté de faire, par exemple, au MUCEM, à Marseille, avec la conservatrice Camille Faucourt, mais aussi un géographe, Fabrice Argounès, ainsi que Sarah Ligné, qui est conservatrice, pardonnez-moi, au musée du Quai Branly et qui nous a rejoint pour participer au fameux séminaire expographique organisé au MUCEM et dont sans doute Aude Fanlot vous parlera tout à l'heure. Nous avons, à partir de 2019, collectivement développé un nouveau programme de recherche au sein du MUCEM qui vise à présenter de manière accessible et réflexive une nouvelle lecture décentrée de l'histoire mondiale. Alors, ce projet est intitulé précisément « Une autre histoire du monde ». Il doit préparer une exposition programmée en 2023 et il s'agit d'appréhender le monde non pas seulement comme un objet ou comme une échelle, mais de considérer le monde comme une expérience culturelle, une expérience artistique, une expérience sensible qui précisément peut être exposée. Et ce faisant, ce projet ne s'inscrit pas dans le programme traditionnel du musée universel hérité des Lumières et associé à l'émergence des sciences archéologiques, mais aussi historiques et géographiques européennes qui ont été très prédatrice dans les mondes extra-européens pendant la période coloniale, ce projet contredit précisément la vision traditionnelle d'une Europe qui serait omnipotente, omnisciente, d'une Europe qui aurait été éternellement au centre du monde. Il s'agit donc de représenter, au contraire, d'autres rapports au monde, et pour ce faire, il fallait inverser les perspectives classiques en privilégiant les points de vue africains, asiatiques, américains, océaniens pour raconter autrement l'histoire du monde. Et pour ce faire, il fallait, sur les différents continents, identifier les sculptures, les peintures, les textiles, les cartes, les arts décoratifs, les photographies, les arts graphiques qui pouvaient nous permettre de donner à voir un autre regard sur les mondialisations successives, par exemple, des mondialisations extra-européennes dans l'océan Indien, dans les Caraïbes, etc., sur l'invention de modernité, entre guillemets, alternative. Il est évidemment impossible d'atteindre une exhaustivité en la matière. Il fallait donc privilégier une exposition réflexive qui se focalise sur quelques thématiques qui permettaient plus généralement une immersion du public à travers de multiples formes de décentrement et d'inversion du regard. Donc, ces notions clés que je ne pourrais pas développer ici, mais sont notamment l'historicité, c'est-à-dire le rapport au temps, le rapport au passé, au présent, au futur de ces différentes sociétés extra-européennes. Deuxième notion très importante, la spatialité, c'est-à-dire le rapport de ces sociétés à l'espace, avec notamment de très nombreuses et riches traditions cartographiques extra-européennes. Ou encore la question de la muséographie elle-même, en s'interrogeant sur les pratiques anciennes de collections hors d'Europe. Donc, en partant à la fois de mes recherches sur la mondialisation par les objets et des travaux de la conservatrice Camille Faucourt, nous attachons un soin particulier à la matérialité de cette narration, en questionnant les absences, les manques ou les disparitions, ainsi que les indices et les traces de cette histoire alternative. C'est pourquoi nous avons choisi d'autres médiums aux côtés de l'écriture, des médiums comme l'oralité, la peinture, la musique et, bien sûr, l'art contemporain. Alors, cette approche globale ne vise pas seulement à élargir notre focale en comparant les différentes sociétés du monde, comme nous tâchons de le faire au sein du MUCEM. Elle permet aussi de revisiter notre propre histoire de l'art. Vous l'avez dit, Christian, c'est précisément ce que nous sommes en train de faire, ce que je suis en train de faire à l'invitation de Laurence Descartes au musée d'Orsay, dans le cadre du programme de recherche « Les mondes d'Orsay, une histoire connectée des collections ». Cécile Debray vient d'évoquer le travail novateur qui a été effectué très récemment au musée de l'Orangerie. Comme vous le savez, s'agissant du musée d'Orsay, ces collections représentent l'art du 19e et du début du 20e siècle. Et de tous les musées du monde, c'est sans doute Orsay qui est celui qui en rend le mieux compte, mais depuis un point de vue particulier, celui de la France, et même plus précisément celui de la capitale Paris. Et il est vrai que Paris était la principale capitale culturelle à cette époque, le lieu de la genèse de tous les mouvements artistiques, de toutes les nouveautés, même littéraires et poétiques. Et le reste du monde était considéré comme une périphérie opposée à un centre. Alors, si Paris et la France ont joué un rôle déterminant dans cette histoire culturelle, il fallait, et c'est notre projet, réinsérer cette histoire apparemment très localisée de l'art dans l'horizon d'une approche connectée et décloisonnée. Nous avons donc essayé de jeter un nouveau regard sur les collections du musée, de percevoir combien les œuvres célèbres ou méconnues participent d'un contexte mondial et révèlent des connexions avec d'autres régions du monde. Alors, comment faire ? Eh bien, de multiples manières, en montrant comment l'Europe met en scène sa domination à travers les arts. Par exemple, c'est le cas dans la sculpture de Carpeau intitulée « Les quatre parties du monde soutenant la sphère céleste ». On peut aussi essayer de restituer le parcours transnational d'artistes comme Pissarro aux Antilles ou bien Gauguin au Pérou. Il est possible également de retrouver la généalogie extra-occidentale de certaines œuvres iconiques, comme par exemple la statue de la Liberté qui trouve en fait ses origines en Égypte. Il est également possible de montrer comment les styles nationaux trouvent parfois leur source à l'étranger, c'est bien connu par les historiens d'art, par exemple pour l'impressionnisme ou le fauvisme en Angleterre. On peut également se focaliser sur les lieux d'échange internationaux, comme par exemple le petit village de Pont-Aven qui a accueilli des centaines d'artistes des quatre coins du monde. Il est possible d'appréhender le rôle des collectionneurs, collectionneurs étrangers, comme le diplomate ottoman Khalil Sherif Pacha qui a acheté, c'est bien connu, l'origine du monde, ou bien, c'est moins connu, le marchand d'art Hayashi Tadamasa, qui est l'un des principaux vecteurs de diffusion du japonisme en France, mais également de la diffusion des impressionnistes au Japon au même moment. Il est également possible de s'intéresser aux protagonistes oubliés par l'histoire traditionnelle de l'art, comme la désormais célèbre modèle Laure dans l'Olympia de Manet, évoquée à l'instant par Cécile Debray. On pourrait également donner d'autres exemples de méthodologies d'histoire globale appliquées aux collections, comme le travail sur la diversité des matériaux utilisés par les artistes français, des pigments ou des bois exotiques provenant de toutes les régions tropicales du monde. Alors pour conclure, je citerai le célèbre historien allemand Leopold von Ranke, qui a parfaitement résumé les potentialités et les limites de l'histoire globale dès 1869. Il écrit « Une histoire générale du monde est nécessaire, mais impossible ». Nécessaire, car il me semble que seule l'histoire globale permet en fait de comparer et de contextualiser toutes les autres histoires, c'est-à-dire les fragments d'histoire locale, nationale ou régionale que nous pensons bien connaître. Toutefois, cette histoire du monde est un horizon inatteignable, dans la mesure où il est impossible de restituer la totalité des points de vue des femmes et des hommes du passé. Il faut tout de même tenter d'écrire cette histoire, même si cette démarche génère un grand nombre d'incertitudes. En effet, désormais, il faut bien l'admettre, le point de vue des historiens et des historiennes vacille car il ne cesse d'osciller, d'hésiter en permanence entre une multiplicité de perspectives. Et cette nouvelle caractéristique du récit historique ne relève pas du tout, selon moi, d'une forme de postmodernisme. Au contraire, au lieu d'écrire un grand récit qui masquerait les trous béants de la connaissance, il s'agit au fond d'être plus honnête, plus modeste aussi, plus juste, et de tâcher de suivre au plus près l'expérience des acteurs du passé. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, Pierre. Je suis certain qu'on aura à cœur de revenir sur votre intervention lors de la discussion de tout à l'heure. Vous avez évoqué le beau projet que vous avez avec Camille Faucourt au MUCEM. Et on va maintenant se tourner vers Aude Franlot, qui est justement responsable du département recherche et enseignement au MUCEM. Alors, Aude Franlot, le MUCEM, on le sait, est un musée qui a été créé à partir d'un musée extrêmement franco-français qui racontait l'histoire de la France et de la France profonde d'une certaine manière. Et sa translation à Marseille a aussi été une translation culturelle, pas seulement une translation géographique, vers la France et vers la Méditerranée, ce qui d'une certaine manière place d'emblée le projet scientifique, culturel et intellectuel du MUCEM entre plusieurs mondes et à la recherche d'une écriture plurielle des civilisations. Comment est-ce que dans la vie de l'établissement, comment est-ce que dans les projets que vous menez, cela se concrétise ?
Oui, merci Christian pour cette invitation. Alors écoutez, je tiens juste à dire effectivement que dans cette table ronde, je suis sans doute la seule à ne pas au fond parler de travaux qui me sont propres, ni de projets que j'ai menés, et qu'au fond, ce que je voudrais vous montrer, C'est quelques chantiers qui sont à des stades d'avancement très différents, mais de projets de mes collègues, de l'équipe scientifique, et surtout insister du coup sur la manière dont le MUCEM peut aborder cette question à travers des expositions, bien sûr, mais sur la diversité pour le coup des formats de ces expositions, des approches proposées, et puis surtout aussi essayer de témoigner mon rôle dans la recherche au sein de l'équipe scientifique, de témoigner aussi de la manière dont ces questions influencent, modifient nos manières de travailler, tout simplement. Alors, tu l'as dit, Christian, le MUCEM, lorsqu'il est créé, distingue dans son projet scientifique de manière très nette la prise en compte, disons, de sujets de débat, de sujets qui sont sur la scène politique, liés à l'actualité contemporaine. Il en fait une de ses lignes éditoriales au fond d'exposition, et à une échelle, effectivement, qui est une échelle transnationale, avec un parti pris qui est celui de mettre l'accent sur ce qui relève des transformations, des mutations, des circulations aujourd'hui à l'échelle euro-méditerranéenne, qui est au fond une échelle d'observation sur laquelle bien des débats ont coulé aussi. Mais en tout cas, c'est cette approche-là qui prime et qui, par exemple, est d'emblée mise en avant de manière très programmatique par une des expositions d'ouverture au Bazar du Genre, qui revenait sur les transformations, sur la question de la construction sociale du genre, sur les transformations qu'elle opérait dans les pratiques, y compris les pratiques quotidiennes, sur les mouvements sociaux, les mouvements de revendication pour l'égalité des droits, pour la reconnaissance des minorités qui y étaient associées. En fait, aussi, cette, bien sûr, comme chaque fois, je pense, l'exposition en tant que telle est aussi accompagnée d'un parade de manifestations, d'événements qui peuvent se déployer aussi bien dans le domaine des conférences, des performances qui sont proposées par la programmation culturelle, que dans le domaine plus propre qui est le mien, des séminaires, des ateliers. Je vous ai mis ici l'exemple de l'école de recherche sur le genre que nous avons organisée avec l'Université d'Aix-Marseille, de Galatasaray et de Sousse en décembre, et qui est une étape de 4 ans de collaboration avec le réseau GenderMed. Mais ce que je voulais signaler aussi par cette pièce qui figurait dans l'exposition et sur évidemment le travail sur les stéréotypes qu'elle manifeste, puisqu'il s'agit ici d'une œuvre d'une artiste bosniaque qui reprenait à partir du travail des broderies de ce qu'on appelle les conseils, qui sont des broderies mises dans les cuisines pour donner de bons conseils de grand-mère et de bons préceptes. Donc ici, Radaj, ça signifie enfante. Et bref, cette pièce qui était dans l'exposition et que nous avons acquise montre aussi que l'exposition est la face visible et aux avant-postes d'un travail plus profond, au long cours, de réinvention, au fond, de nos collections. Et en particulier, cette pièce, qui est une pièce textile, rejoint le pôle corps, apparence, sexualité, qui est un pôle de collection qui a été créé au moment du MUCEM, qui a en grande partie, qui est constitué des collections textiles issues des ATP, et qui montre bien comment, au fond, on passe de la logique ATP d'identité régionale ou de synthèse au niveau national à une toute autre manière d'aborder et de regarder et de relire les collections que nous avons. Ce que je voulais dire aussi à propos de cette exposition, c'est qu'elle est un peu, c'est une exposition qui était thématiques qui étaient en grande partie, disons, pédagogiques ou didactiques, mais qui évitaient un petit peu, les écueils du didactisme par la métaphore du bazar, qui était vraiment un principe de scénographie très où l'on se perdait au fond, pas du tout linéaire, en étoile, et qui aussi invitait à une profusion, et pour le coup une profusion aussi de points de vue, beaucoup plus qu'un discours monologique. A contrario, j'évoque un projet qui n'est pas du tout, vous avez ici un document de travail, et ce n'est pas du tout un projet abouti, il est à naissant. C'est un projet de rétrospective de l'œuvre de Gada Hammer, sous le commissariat de Philippe Dagen et d'Elia Pockner au MUCEM. Et je voulais évoquer avec vous ce projet à travers deux pièces qui y seront présentées autour du voile et qui montrent une toute autre façon d'aborder le sujet du genre, donc à travers une expo monographique d'artistes et à travers un discours en biais qui est vraiment un discours singulier, celui de l'artiste qui n'entend pas du tout être dans un discours, disons, de message, mais qui, à travers ce jeu sur les voiles qu'elle propose, montre aussi, au fond, une réception singulière de cette question. Ici, vous avez un niqab qu'elle a fait alors qu'elle était en Égypte et sur lequel est calligraphié le mot peur. Un moment où elle est en Égypte et l'extension de la pratique du port du voile l'inquiète. Et au contraire, comment, à peu près à la même époque, elle retourne les clichés, les amalgames, la hantise terroriste à Paris avec cette performance de femme intégralement voilée et en personnage, disons, de visiteuse touristique de Paris. Et donc, ce qui est intéressant, ce que je voulais simplement évoquer, c'était cette diversité de formats et d'aborder des questions semblables, mais depuis à la fois des points de vue, des échelles et des approches tout à fait différentes. Et pour compléter cette évocation de ce projet, la manière aussi dont ces pièces seront mises en discussion, en dialogue, en contrepoint avec des images de nos collections d'inspiration orientaliste. Autre manière de faire, c'est ce que l'on a développé sur le plan des expositions collaboratives, sur les manières de construire des expositions qui impliquent les acteurs concernés sur des sujets comme le VIH-SIDA, avec une exposition qui est préparée depuis maintenant 3 ou 4 ans à partir de nos collections sur les mobilisations sociales en lien avec le SIDA. Une exposition qui est conduite par Florent Moll, mais avec un comité de suivi qui réunit des militants, des acteurs, des chercheurs et qui travaillent ensemble depuis 3 ans, à la fois sur les collections que nous avons et sur le projet d'exposition. Et autre projet dans la même veine, dans la même modalité au fond, c'est celui de Barvalo, conduit par Julia Ferloni, Françoise Dalmagne et Alina Madure pour le MUCEM, et deux commissaires extérieurs, qui est donc un projet sur les savoir-faire Romani, et qui réunit alors une équipe curatoriale que j'ai citée, mais un comité d'experts dont vous voyez qu'il est imposant en nombre, et qui est un comité comprenant des chercheurs spécialistes de sujets, mais énormément aussi d'acteurs roms, qui peuvent être des acteurs comme Sacha Zinko, qui est tameur et qui est un emblème de sa profession, mais aussi des Roms qui sont des artistes ou des universitaires eux-mêmes. Et ce projet est aussi un énorme chantier parce que ça signifie 3 ans, 4 ans de séminaires qui sont des séminaires en mode groupe de travail, qui s'appellent des ateliers expographiques et qui préparent vraiment collectivement à la fois la conception de l'exposition, mais aussi des enquêtes de terrain et de collecte menées par ce même comité de suivi et qui seront valorisées dans l'exposition. Et on a là un exemple aussi de ce que ces questions, de la manière dont ces questions influencent nos manières aussi de procéder à des enquêtes en impliquant les acteurs directement et non plus seulement, disons, des ethnographes ou des spécialistes du sujet allant auprès des acteurs et les laissant en quelque sorte dans un rôle de témoin, mais pas vraiment de participant à l'enquête. Autre chantier qui n'est plus celui des expositions, mais qui souvent est lié, c'est ceux des collections. Et je veux signaler ici deux types de travaux engagés sous la direction d'Émilie Girard, donc, qui est notre directrice scientifique des collections. Nous venons de lancer avec l'équipe de la conservation des chantiers d'études transversales des collections qui vont accompagner les reprises d'inventaire et avec des sujets donc, qui réunissent plusieurs responsables de pôles conservateurs, en particulier hein, sur les représentations de l'autre et les stéréotypes auxquels travaille ce Julia Ferloni, que je viens de citer, responsable du pôle artisanat et commissaire de l'exposition Barvalo, mais aussi Camille Faucourt, dont parlait Pierre, qui est responsable du pôle mobilité-métissage et co-commissaire avec Pierre de l'exposition Une autre histoire du monde, et qui, elle, travaille sur les représentations stéréotypées et coloniales de que nous trouvons dans nos cartes, dans nos nombreuses pièces dites d'imagerie populaire, ou comme ici, puisque je parlais de Barvalo, voilà un exemple de pièce qui est une cible de tir forain de femmes gitanes. Et donc tout l'enjeu est de que la reprise d'inventaire soit aussi le levier pour retravailler les notices et les indexations, recontextualiser des objets qui muets véhiculent des racismes ou des inconscients et les font perdurer. Et puis, pour que ces chantiers d'études de collection soient aussi les leviers pour la recherche, à des programmes de recherche associés avec le monde académique. Autre exemple au niveau des collections, c'est les ateliers narratifs que nous avons lancés et qui sont des dispositifs qui permettent de travailler avec les donateurs et avec les comités d'experts que nous avons constitués autour des expositions comme SIDA, par exemple, mais aussi avec, dans le cas du corps, du pôle Corps Apparence, on a monté un atelier narratif avec les militantes féministes. Disons que c'est une manière, ce sont des ateliers qui permettent du coup à des acteurs, qu'ils soient donateurs ou passés ou donateurs potentiels pour le musée, de lire nos collections depuis leur point de vue et de développer depuis leur point de vue l'information qu'on associe à ces collections. Et puis, dernier champ, c'est celui à proprement parler de la programmation recherche. Pierre évoquait les ateliers expographiques et j'en ai parlé, donc pour un certain nombre d'expositions qui soulèvent des sujets de débat et des sujets aussi d'évolution profonde à la fois sociale et de nos pratiques. On a monté ce dispositif d'atelier expographique qui consiste à préparer sur 3-4 ans par un groupe de travail régulier et qui s'associe des collègues à la fois conservateurs, artistes, acteurs concernés, pour préparer donc des projets d'exposition. On a un autre dispositif qui est celui des ateliers, disons, d'accompagnement réflexif aux activités internes du musée. C'est le cas d'ateliers participation ou collaboration qui, prenant appui justement sur quelques-uns des projets que j'ai cités, en tout cas sur ces projets qui incluent la participation à la fois dans l'étude des collections et dans les projets d'exposition, donc pour accompagner ce processus-là d'un atelier, d'un workshop réflexif qui est d'abord un atelier interne. Et puis, je voulais bien sûr terminer en citant ce qui est davantage un séminaire exploratoire, mais que nous venons de lancer avec Cyril Isnard. Cyril Isnard est ethnologue du patrimoine à l'IDEMEC et au MUCEM, en mission au MUCEM. Et il vient de lancer un séminaire qui s'appelle « Singulier, objet des minorités en Méditerranée », qui est très intéressant, qui donc a un dispositif très intéressant qui consiste à, sur appel, à associer un conservateur ou un chercheur et un acteur d'une communauté minorisée, qu'elle soit ethnique, professionnelle, linguistique, sexuelle ou religieuse, mais pour travailler ensemble sur le choix d'un objet et sur l'explicitation de cet objet. Voilà, je m'arrête là et je répondrai très volontiers à vos questions, s'il y en a.
Merci beaucoup, Aude. Merci pour cette présentation. Lorsque nous avions travaillé un petit peu la préparation de cette table ronde, on avait bien senti à quel point, dans le cas du MUCEM, il était intéressant de revenir en fait sur toutes les activités du musée et pas seulement sur les expositions, même si les expositions sont une partie très, très visible, parce que ce souci de débassement, de décloisonnement, de pluralité des points de vue innerve véritablement la totalité des activités de l'institution. Alors, je me tourne maintenant vers Sébastien Gocalpe, qui est donc directeur du musée de l'immigration. Tout à l'heure, avec Pierre Zingaravelou, on a évoqué un petit peu, dans le cas du musée d'Orsay, comment on pouvait objectiver ce qu'était le musée d'Orsay, ce qu'il disait de l'histoire de l'art du 19e et du début du 20e siècle, à travers sa place dans Paris, la place de Paris dans le monde. Le bâtiment de l'APRA des Jocelys, au palais de la Porte Dorée, il a été conçu comme étant le musée permanent des colonies lors de l'exposition coloniale de 1931, pour glorifier ce que Octave Humbert appelait la France des cinq parties du monde. Alors, comment dans un musée, dans un lieu à ce point marqué en fait par l'histoire coloniale, comment s'inscrit aujourd'hui la construction d'autres discours, l'affirmation de cette diversité de points de vue, ce dépassement des frontières culturelles? C'est ce que vous allez nous dire maintenant.
Bonjour, donc merci à Christian de cette invitation, merci à l'INP et l'École du Louvre d'organiser ce qu'exposé veut dire depuis maintenant 8 ans, je crois. Effectivement, donc moi je dirige le Musée national d'histoire de l'immigration, qui est un musée qui a à la fois une collection d'histoire, d'ethnologie et d'art contemporain, donc à cheval, et dont l'objectif principal, c'est changer les regards sur l'immigration. Donc c'est un musée qui a un véritable rôle social, et c'est pour ça que l'intitulé de la table ronde aujourd'hui me semblait particulièrement intéressant, et en même temps assez surprenant. Alors je vous le relis, parce que c'était « Les institutions, à travers leur collection, leur scénographie et le discours qu'elles portent, contribuerait à maintenir les stéréotypes liés au genre et l'invisibilisation d'une partie de la société. En tant qu'espace public, le patrimoine et les musées ont été la cible d'une taxe de dégradation et de revendication. Comment les institutions s'emparent-elles aujourd'hui de ces problématiques? Et les expositions peuvent-elles être le lieu du débat sur la place des femmes et la représentation de la diversité ?» Alors, ce musée, effectivement, dans un palais colonial, et on s'aperçoit à quel point aujourd'hui, finalement, l'histoire coloniale impacte la manière dont l'immigration est perçue dans la société et les rapports de la société. En même temps, ce qui m'a un peu surpris dans cette présentation, c'était cette mise en opposition entre, d'un côté, l'invisibilisation des minorités et, de l'autre côté, des dégradations et les revendications des patrimoines. Comment fait si, finalement, les revendications des invisibles se traduisaient par des dégradations? Or, d'une part, c'est quand même faire un peu oublier que les principaux objectifs des revendications, qui sont quand même la fin des discriminations et la réécriture d'histoire en prenant en compte celle des dominés. Alors évidemment, ce sont des dégradations qui peuvent être regrettables, mais par ailleurs, les revendications à l'égalité sont d'ordre sociétal, alors que la volonté de relecture de l'histoire et du patrimoine sont plutôt d'ordre culturel. Donc il y a cette double action actuelle qui est assez frappante, cette concomitance entre, d'une part, une volonté de reconnaissance des discriminations, de stopper les discriminations, et une volonté de prendre en compte l'histoire, comme l'a présenté Pierre Singer-Avelou, une histoire qui ne serait pas uniquement écrite par l'Occident, par les dominants ou par les colonisateurs, mais une histoire un peu plus mondiale. Ce qui a été assez frappant donc, dans cette histoire sociale mondiale, on pourrait dire, c'est à partir de mai 2020, une explosion de Black Lives Matter, donc ce mouvement qui affirmait que la vie d'Afro-Américains comptait autant que celle des autres. Ce mouvement s'est étendu beaucoup, a eu beaucoup d'impact en Occident, notamment dans les musées, et bizarrement, ou en tout cas, ça me semble encore toujours assez surprenant, très peu en France, et en tout cas dans les musées français. Alors, il y a plusieurs éléments d'explication de cette non-répercussion dans les musées français. Donc, c'est peut-être un peu compliqué de discuter ici. Il y a en tout cas un élément qui a été assez frappant, c'est que dans le même temps a eu lieu en France un mouvement d'ampleur qui était suscité en fait par le mouvement Comité Adama Traoré, qui a donné lieu à plusieurs manifestations. Mais ce mouvement, à la différence du mouvement Black Lives Matter, a été critiqué, même si c'est les deux mouvements partent d'un même fait divers, c'est-à-dire la mort d'un homme noir suite à une intervention policière. Les deux événements n'ont pas été du tout traités de la même manière. Et en France, notamment, le mouvement Adama Traoré est beaucoup plus critiqué que ne peut l'être les mobilisations autour de la mort de George Floyd. Alors, ce qui est aussi important de préciser, et ça, c'est peut-être dans ce musée de l'immigration où on est particulièrement sensible à cette question, c'est une question qui traverse d'ailleurs toute la société et le monde politique actuellement, qui est cette vision universaliste française, qui est niée, on pourrait le faire, pour le dire simplement, de l'époque des Lumières, de la Révolution française. Cette vision universaliste est aussi un des fondements de la République, qui consiste à considérer que chacun comme l'égal de l'autre et à ne pas vouloir différencier selon l'aspect physique, de ne pas essentialiser les personnes ou ne pas les assigner une identité. À cette vision, s'oppose une autre vision, en tout cas, qui est une autre vision qui se veut beaucoup plus pragmatique, qui part du constat que, l'universalisme n'est pas appliqué dans les faits, que le racisme et les discriminations sont encore bien présents dans la société et que, par exemple, les discriminations sont de loin les premiers motifs de saisine du défenseur des droits. Il faudrait, et en tout cas c'est ce à quoi ça s'emploie au musée de l'immigration, sortir en fait de cette opposition binaire entre universaliste et multiculturel, et au contraire, prendre en compte que la France est un pays multiculturel, mais avec un modèle républicain, et c'est en fait cette articulation qui semble en train de se jouer de manière un peu tendue, comme on peut le voir dans les débats, que ce soit dans les débats à l'Assemblée, ou même dans les débats qui traversent la société. Dans le même temps, donc, de ce mouvement qui visait à une plus grande reconnaissance des minorités visibles, s'est développé des relectures de l'histoire et notamment des relectures d'inscriptions de l'histoire dans l'espace public. Alors, ces relectures de l'histoire ont pris des formes culturelles qui ont été saluées par tous. J'en veux ici, je suis très fier ici d'être en présence de Cécile Debré, qui était une des commissaires de l'exposition de modèles noirs, ou bien encore d'André Delpuech, qui avait programmé cette exposition « Nous autres » au Musée de l'Homme. Donc, ce sont des exemples qui sont assez rares, finalement, dans le paysage muséal français, et qu'on peut d'autant plus saluer. Et puis, on a noté d'autres lancements d'initiatives, d'autres programmes de recherche, ou bien encore la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui a lancé un concours pour un monument dont on a un peu entendu parler récemment. En France, ces relectures se sont aussi accompagnées de polémiques et on connaît un peu le goût français pour la polémique. Et ça, c'est notamment, il y a eu plusieurs épisodes, je vous en présenterai juste deux, je vous en rappellerai juste deux, tant vous devez en avoir entendu parler. La première, ce sont la représentation des suppliantes d'Eschyle, où les personnages étaient grimés en noir et où des mouvements protestaient en disant que c'était une espèce de rappel d'un mouvement d'une période assez sombre de l'histoire, où renvoyant au principe des blackface, cette manière de grimer en fait les acteurs en noir. Deuxième épisode, j'ai pas de diapositive, mais c'était les fresques de Hervé Di Rosa, qui là aussi reprenait le principe des blackface, qui se trouvaient dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Et là aussi, la question se posait de savoir, faut-il garder en fait cette expression d'une mentalité, d'une mentalité liée à une époque raciste dans l'espace public, ou bien faut-il regarder, accepter l'histoire. Et c'est un peu finalement le débat qui est le plus important, je pense, pour des gens de patrimoine, puisque vous êtes, ma souvenir est bonne, vous êtes quand même beaucoup d'élèves ou d'élèves conservateurs. Cette question finalement de qu'est-ce qu'on fait de cette histoire. Alors certains ont répondu de manière assez violente. Vous avez cette série de déboulonnage qui a accompagné le mouvement Black Lives Matter et qui consistait en fait à refuser de continuer à glorifier des personnes qui étaient notoirement esclavagistes et qui avaient traité la population noire en les massacrant. Donc ces déboulonnages a évidemment été aussi une question assez forte jusqu'au président de la République qui affirme qu'il ne faut pas déboulonner les statues. Vous avez d'autres exemples de ce débat, enfin en tout cas de cet activisme quelque peu qui dégrade le patrimoine. Et comme vous êtes tous des conservateurs du patrimoine, vous avez sûrement été choqués par ce genre d'action, notamment l'action qui portait sur la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale, puisque Colbert était celui qui avait mis en place ou lancé la rédaction du Code noir. Je prendrai un troisième exemple effectivement de dégradation récente, celui de la statue de Joséphine de Beauharnais, qui avait beaucoup influencé sur Napoléon sur l'esclavage, et qui là aussi a beaucoup scandalisé en disant « mais on ne dégrade pas le patrimoine ». Alors, ce qui est frappant en fait dans cette période historique que nous vivons, en tout cas dans ces deux dernières années que nous vivons, c'est encore une fois la concomitance de demande de faire cesser les discriminations, et vous avez orienté en fait toute votre journée sur ces questions qui sont des discriminations aussi bien en termes de genre que de sexe que d'apparence, et cette volonté de relire l'histoire, cette manière importante de relire l'histoire, parce que finalement ça confère aux gens qui souhaitent cette relecture des appuis historiques, scientifiques, symboliques très importants qui permettent en fait de développer la pensée et de développer les débats. Donc évidemment, ce qui est important, c'est de documenter cette histoire, de travailler dessus, de reconnaître en fait cette histoire coloniale, et notamment de faire savoir que l'esclavage a généré des massacres à grande échelle, ou encore que la colonisation a été peut-être pour certains côtés des bienfaits, mais a été surtout quand même une exploitation qui est d'une partie du monde. Alors, rien de bien nouveau là-dessus. Évidemment, le monde a passé son temps à faire la guerre. Mais cette concomitance permet aussi de comprendre pourquoi aujourd'hui, pour le dire assez sommairement, les Noirs et les Arabes en France sont parmi les populations les plus discriminées. Donc, que peut faire un musée, puisque c'est finalement votre futur métier ou votre métier actuel peut-être, travailler sur ces questions. La première, évidemment, c'est de faire des expositions. On a déjà eu une présentation du modèle noir, on va en avoir deux autres prochainement. Et évidemment, le musée de l'immigration, avec son mission sociale de changer le regard sur l'immigration, il travaille à travers la refonte de son parcours permanent, à partir d'un rapport rédigé par Romain Bertrand, coordonné par Romain Bertrand et Patrick Boucheron. On aussi prépare des expositions, notamment sur les minorités asiatiques en France, sur les juifs et musulmans en France. Donc ça, ce sont un peu, je ne reviendrai pas là-dessus, parce que ça semble un peu ce qui a finalement été le plus présenté, plus longtemps présenté dans cet après-midi. On peut organiser aussi des choses qui seraient de l'ordre de la programmation, qui est un peu du para-exposition, mais qui est finalement tout aussi importante, parce que le musée, c'est un lieu physique, et on s'en est aperçu beaucoup récemment, mais c'est aussi un lieu d'échange. Donc, il faut effectivement des conférences, une volonté de diversifier les publics, notamment les publics qui ne sont pas, ce qu'on appelle en général les publics empêchés, les publics de ceux qui ne sont pas pris en compte, ou ceux qui ne trouvent pas leur repère sur la scène dans les musées, donner la parole aux principaux concernés, et puis s'assurer dans sa politique de ressources humaines une réelle égalité. Il y a par exemple le ministère de la Culture qui attribue un label diversité et égalité, justement pour les institutions qui y font attention. Alors, j'étais un peu long et puis l'heure s'est déjà bien déportée. Je voulais juste revenir rapidement sur quelques questions qui ont traversé, là encore, le monde patrimonial sur la question de cette reconnaissance de l'histoire, avec les restitutions qui ont été un débat où on voit bien la tension entre un gouvernement qui souhaite développer ses relations internationales et une communauté de patrimoine qui est particulièrement attachée notamment à la notion d'inaliabilité, avec ce débat qui traverse d'autres pays, comme notamment les Pays-Bas, qui, eux, sont partis sur des restitutions beaucoup plus larges en termes de quantité. Une nécessité aussi de réfléchir, donc peut-être pour réfléchir cette réflexion sur le que faire du passé. Alors certes, c'est pas bien de déboulonner, on pourrait dire. Après, on peut aussi parfois se poser la question de faut-il maintenir les statuts en place ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'il faut rajouter des cartels pour expliquer un peu mieux qui était telle personne ? Voire parfois, s'il y a une certaine unanimité qui se met en place, déposer la sculpture, quitte à les mettre dans des réserves. On est tous conscients qu'il n'y a pas beaucoup de sculptures de Pétain dans l'espace public et que la dernière a été déposée en 2011. Pourtant, c'est le grand vainqueur de Verdun, mais finalement, il n'y a pas eu que des côtés positifs. Et puis aussi ce dont avait parlé Cécile Debray, ce travail de renommage des œuvres qui est assez important, notamment par exemple aux Pays-Bas. Donc finalement, les musées sont un lieu de reconnaissance symbolique, un lieu de transmission. Ce sont des lieux qui ont un rôle extrêmement important culturel, mais aussi social. Et donc pour répondre à votre question au début, effectivement, oui, les gens de musée peuvent avoir un engagement social qui peut prendre des multiples formes, toutes celles que j'ai évoquées, qui ne sont pas forcément spectaculaires, mais qui, on l'espère tous, vont contribuer à l'évolution de la société et améliorer notre vie, notre vivre ensemble. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Sébastien. Merci pour toutes vos interventions. Nous avons maintenant un petit peu de temps pour prendre des questions de la part de la salle. Pour ma part, j'en aurais peut-être une pour lancer la discussion. Je voudrais poser peut-être une question à Cécile Debray et revenir sur votre première intervention. Enfin, c'est un petit peu deux questions en une. Une assez précise et technique et une assez plus générale. Vous avez dit qu'à l'occasion de la préparation de l'exposition sur le modèle noir, il y avait eu tout un travail qui avait été fait sur le renommage des œuvres, la requalification des œuvres par rapport à des titres qui étaient inadaptés. Jusqu'où va ce renommage ? Est-ce qu'il est seulement pour l'exposition ou bien est-ce qu'il affecte également la documentation qui ensuite va continuer à suivre l'œuvre pendant toute la vie de sa conservation ? Et à partir de là, question peut-être plus générale, mais qui est emmanchée dans l'autre en fait, vous nous aviez dit que cette exposition avait été l'occasion pour vous, conservateur du patrimoine, dans un musée, Pierre Segaravé nous l'a rappelé, plutôt traditionnellement dédié à l'affirmation de la prééminence française dans les arts, etc., que ça avait été l'occasion pour vous de revenir sur vos pratiques, de réfléchir sur celles-ci. Est-ce que l'exposition Le modèle noir a été, je dirais, un événement en soi qui, à cette occasion, vous a fait transformer vos pratiques, ou bien est-ce que les transformations induites par la réflexion liée à la mise en place de cette exposition sont pour vous toujours des choses perceptibles et sensibles aujourd'hui dans la poursuite de votre activité professionnelle et éventuellement sur d'autres sujets où ces questions apparaissent de manière moins frontale mais où elles peuvent quand même être présentes?
Alors, pour répondre sur la question des titres, évidemment que le travail qui a été engagé devait s'inscrire dans la durée et porter, je dirais, sur une les inventaires, sur le descriptif de la collection. Donc, on l'a fait avec en réfléchissant beaucoup. D'ailleurs, on a pas mal discuté avec Pape Ndiaye à ce moment-là sur ces questions de titres et sur la systématisation ou pas de ces changements de titres. Je m'explique, c'est-à-dire que vous aviez dans les différentes œuvres, vous aviez des titres qui étaient en fait des titres génériques, c'est-à-dire qui étaient uniquement descriptifs, vraisemblablement pas donnés par l'artiste lui-même, et qui reflétaient en fait l'état de la pensée par rapport à ces questions de diversité au moment où le tableau était nommé. Donc, c'est passé, je dirais, au XIXe siècle, c'était Portrait de Négresse, qui est un titre totalement générique, qui était une manière pour, je dirais, dans un salon de désigner un tableau sans que ce soit un véritable titre. Et puis ensuite, dans les années 1980, on a mis plutôt Portrait de Noir ou de Servante Noire. Et aujourd'hui, même ce titre-là, pourtant adopté dans les années 80, ne paraissait pas satisfaisant. Pourquoi on va pas dire serviteur blanc, par exemple, et donc on est allé jusqu'à portrait de femme ou en allant plus loin, et c'était vraiment le sujet de l'exposition, qui était celui de retrouver en fait le nom des modèles quand on pouvait donner un nom, lui redonner un nom. Alors du point de vue de la, je dirais, du traitement de nos bases de données et de nos inventaires, on a pris le soin de garder l'historique des titres, c'est-à-dire de pouvoir mentionner le titre original ou les évolutions successives des titres pour arriver au titre qu'on a décidé d'adopter dans l'exposition et qui est maintenu dans les inventaires et dans le descriptif de la collection. Ensuite, et ça, je me souviens très bien de cette discussion avec Pape Ndiaye, c'était de se poser la question lorsque dans un titre, l'artiste lui-même, et là, un exemple précis m'échappe, mais l'artiste pouvait, par un souci de position politique, de dire clairement que le modèle représenté était relevé de la condition des Noirs. Et dans ce cas-là, il était important de garder cette mention de la couleur de peau comme un élément stigmatisant ou expliquant son statut, etc. Ou par exemple, quand on parle d'esclaves noirs, il y a un propos qui est celui soit de la dénonciation, soit de la célébration de l'esclavagisme, etc. Donc voilà, il y a eu tout un débat assez subtil, justement, pour pas avoir une sorte de réécriture de l'histoire. Et vraiment, tout le propos du modèle noir, c'était de garder de ne pas tomber dans l'anachronisme, dans une réécriture, mais d'expliquer un contexte historique et de remettre dans un contexte historique des titres. Donc ça, c'est, voilà, si peut-être que j'ai à peu près répondu à cette question des titres. Maintenant, sur nos pratiques de commissariat ou nos pratiques professionnelles, là, je voulais plutôt davantage parler de l'équipe du musée d'Orsay, si je peux m'exprimer ainsi, parce que moi, je viens du Centre Pompidou, j'ai participé à l'accrochage L à Centre Pompidou, donc avec une certaine habitude, en tout cas, de ces questions de diversité, ces questionnements qui sont menés quand même depuis un certain temps dans les musées d'art moderne ou d'art contemporain. Je dirais que c'est un peu la fréquentation des artistes contemporains qui, de toute façon, pousse les professionnels des musées à se remettre en cause aussi par rapport à leur engagement social ou pas dans le métier. Je dirais que là, ce qui était vraiment intéressant, c'était effectivement cette interrogation sur des sujets en histoire de l'art, la question de la représentation des communautés noires, mais il faudra s'interroger aussi sur la question des artistes femmes ou de la condition des femmes au XIXe siècle, et c'est un sujet compliqué. Peut-être ce qui personnellement m'a beaucoup marqué à travers cette exposition, c'est la question de la diversité au sein de notre communauté professionnelle que sont les conservateurs du patrimoine. Et là, je dirais que ça interroge directement l'INP, c'est-à-dire comment faire pour ouvrir notre corps, notre métier à l'ensemble, je dirais, de la société française qui est beaucoup plus diverse que ce que nous sommes au sein de notre corps. Voilà. Et ça, c'est une question essentielle qui ne peut plus être évitée. Voilà. Je pense que ça, en tant que directrice de musée, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup de pouvoir ouvrir notre métier.
Merci Cécile Debré. C'est une question qui nous importe également, bien entendu, à l'INP. C'est en partie, je dirais, mais en partie seulement, et il n'est pas pour moi temps ou lieu de répondre forcément de manière très détaillée ici, mais c'est en partie le sens des différents engagements que nous avons pris depuis 10 ans maintenant, notamment avec l'ouverture d'une classe préparatoire intégrée, qui est un partenariat avec l'École du Louvre et l'École des Chartes, et qui a incontestablement rempli sa mission, sans doute beaucoup plus d'ailleurs que d'autres classes préparatoires intégrées, d'autres grandes écoles, mais il est évident que ça reste un chemin qui est encore long à parcourir, parce que il est clair que dans les métiers qui sont les nôtres, dans le métier qui est le nôtre, les questions, pour le dire en termes sociologiques, de capital culturel, de capital hérité, comptent énormément. Compte autant, sinon plus, que les connaissances scolaires apprises. Et que là, on a toute une série de freins, effectivement, qui se manifestent.
Effectivement, et j'ajouterais aussi un cheval de bataille bien, bien ancien au sein de notre corps, c'est que l'histoire de l'art n'est pas enseignée dans le secondaire. Et ça, ce serait un levier absolument formidable, alors qu'on est dans une société de l'image, et les différents confinements ont bien montré combien l'image numérique occupait une place essentielle. Il serait absolument essentiel que l'histoire de l'art fasse son entrée dans le secondaire, dans l'enseignement secondaire. Oui.
Je vais peut-être revenir sur un échange qui a été tenu sur le fil de discussion à propos du sujet du blackface. Et donc, il a été signalé que la Fédération des écomusées et des musées de société s'était exprimée sur ce sujet par Bénédicte Roland-Villemot. Ce à quoi vous avez répondu, Sébastien Gocalp, que les musées avaient répondu oui, mais en partie timidement. Et puisque vous lanciez l'idée qu'on pourrait discuter éventuellement des raisons de cette timidité, ça peut être le moment de le faire, puisque le temps est venu de la discussion entre nous tous.
Oui, effectivement, moi, ça m'a surpris, parce que le monde des musées est un monde assez cultivé, sensible aux problématiques de société, donc qui a parfaitement saisi ce bouleversement mondial, hein, et en même temps qui s'est peu exprimé sur le sujet. Et quand je dis nous les premiers, c'est le musée d'immigration en premier, et j'ai passé quelques images, mais c'est vrai que quand on regardait les sites internet des musées américains notamment, mais aussi anglais à cette période, c'était en façade de tous les musées. En France, on a eu quelques proclamations, mais beaucoup moins. Et Donc, est-ce que effectivement, comme je l'ai mis, je pensais pas que c'était en fil partagé, mais est-ce que c'est effectivement le fait que la population noire en France est moins importante qu'aux États-Unis a joué un rôle? Peut-être, mais je pense pas que ce soit la principale raison. Alors, je sais pas aussi, peut-être cette valeur qui est très forte en France, qui est de dire qu'on ne fait pas la différence entre un blanc, un noir et un arabe. Cet universalisme fait que ça n'était pas finalement une question dans laquelle pouvaient s'engager des institutions qui sont quand même, d'une certaine manière, la norme qui défendent la norme de l'État. Donc, avec cette espèce même presque de devoir de réserve, de ne pas avoir à se positionner sur des débats qui, en France, sont encore une fois pas résolus, qui sont des vrais débats. Et puis, d'autre part aussi, ce qui a été frappant aux États-Unis et même un peu terrifiant pour en France, c'est le mouvement qui a consisté à limoger ou en tout cas à remercier beaucoup de conservateurs pour leurs actes réels ou supposés discriminants. Et qu'il n'y a évidemment pas eu de l'équivalent en France, mais j'ai été frappé. Alors, aussi, c'est le système américain qui fait que c'est pas fonctionnaire, donc on peut remercier quelqu'un assez facilement. Mais par cette et des personnalités, enfin Cécile connaît bien, mais que ce soit au Guggenheim, au Sofran SF Museum, des gens qui avaient 20 ans, 30 ans d'expérience, qui avaient fait des expositions majeures, étaient remerciés du jour au lendemain pour un tweet, pour une affirmation dans une réunion de conseil d'administration, etc. Et on s'apercevait tout d'un coup que le monde muséal américain a subi un séisme qui n'a rien à voir en France.
Merci.
Peut-être juste une remarque sur cette dernière question, je me permets d'intervenir.
On fera la transition avec votre communication.
Voilà, c'est presque ça. Le titre de la table ronde, c'est « Engagement citoyen des musées ou devoir de réserve ». Et je crois qu'en France aussi, on a un problème avec le devoir de réserve. En tant que fonctionnaire de l'État, on voit bien effectivement la timidité que peuvent avoir parfois notre hiérarchie à prendre position sur des sujets comme ça. Moi, j'en veux pour preuve, effectivement, au moment du mouvement Black Lives Matter, je considérais qu'un musée comme le Musée de l'Homme, que j'ai le bonheur de diriger, devait prendre position, et finalement, l'institution à laquelle j'appartiens n'a pas souhaité le faire, et finalement, j'ai fini par publier une tribune, à titre individuel, à la demande de Science et Avenir, hein, sur Internet, par rapport à certaines expériences que je pouvais avoir sur ces questions-là. Mais voilà, je crois aussi qu'on a cette réserve qui des fois nous pèse au-dessus de nous et qui fait qu'on n'ose pas sur ces sujets-là tellement, qui peuvent vite déraper et qui peuvent être aussi très polémiques et politiques. Voilà, en tant que fonctionnaire de la République, peut-être c'est aussi la limite de notre liberté de parole.
Alors effectivement, c'est une question importante. Quelqu'un sur le fil de discussion souligne que c'est encore plus le cas lorsqu'on travaille dans une collectivité territoriale, je le crois aussi. Du coup, alors ça va peut-être faire un peu la transition avec vos communications, mais j'avais quand même une question qui me restait un petit peu en tête et un peu en suspens après vous avoir entendu. C'est celle finalement, c'est pas une question polémique, mais c'est une question un petit peu clinique en quelque sorte, de la manière dont les savoirs et les nouvelles problématiques circulent entre nous, entre scientifiques des institutions patrimoniales et chercheurs du monde académique. Le travail qu'a fait Pierre, et aussi bien au musée d'Orsay qu'au MUSEM, est intéressant de ce point de vue-là. On a vu aussi, Aude Fanlot a évoqué la position particulière de Cyril Isnard au MUSEM aujourd'hui, qui est embarqué en quelque sorte dans l'institution. Cette question de l'embarquement du chercheur académique dans l'institution culturelle, c'est une question qui est assez ancienne. Qu'est-ce que l'académique apporte en fait au culturel? Est-ce qu'il apporte justement cette liberté totale de tout dire quand nous sommes tenus un petit peu par les rênes de nos institutions et par les rênes d'une hiérarchie? Est-ce que c'est ça l'apport notamment du chercheur académique dans l'institution culturelle?
Je vais me permettre de prendre la parole parce qu'on est en train de refaire notre parcours permanent. Donc, juste pour rappeler, il y a 4-5 ans, un comité de 40 chercheurs académiques, donc comme vous dites, sous la direction de Patrick Boucheron et Romain Bertrand, avait produit un rapport de 450 pages sur qu'est-ce que devait être le futur parcours du Musée national de l'histoire des migrations. Et donc, c'est à partir de ce rapport qu'on est en train de travailler à la réalisation de ce parcours. Et alors, c'est quelque chose qui m'occupe depuis plus d'un an, mais disons que le travail avec le monde académique est devenu mon quotidien. Et effectivement, un des intérêts très grands, c'est que ce sont des spécialistes qui travaillent sur le même sujet depuis souvent très longtemps, donc qui ont une compétence dans le domaine concerné extraordinaire, peut-être plus que finalement dans le monde des musées où on a des fonctions administratives parfois pesantes, où on change souvent d'un sujet à l'autre, ce qui n'est pas toujours le cas des universitaires. C'est souvent d'ailleurs pourquoi les commissariats associent un universitaire avec un conservateur. Et puis aussi cette remarque, là j'expérimente, c'est la différence de culture, de réalisation. L'approche universitaire est beaucoup plus intellectuelle et l'approche patrimoniale est plus dans le niveau de, on va, pour simplifier, de l'espace, de l'objet. Et c'est ces deux cultures qui finalement doivent s'apprivoiser. Et ça, c'est une très belle expérience que l'un apporte toujours à l'autre et en même temps, parfois, prend beaucoup de temps.
Merci. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite réagir. Aude, peut-être ?
Oui, simplement pour aller tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Sébastien, ce qui est très intéressant dans ces échanges-là, c'est l'acculturation réciproque, au fond. Et donc, moi, je le vois un peu in vitro avec les chercheurs que l'on accueille sous toute forme de dispositifs. C'est cette sensibilisation à l'objet, à l'iconographie, etc., que n'a pas forcément, n'ont pas forcément les disciplines concernées, et ce détour par l'objet, comme dans le cas du séminaire que je citais de Cyril, mais comme... comme aussi ce qui se passe quand on part en binôme ou en trinôme avec des artistes, des conservateurs et des chercheurs et des acteurs en enquête, par exemple. C'est vraiment ces approches métiers différentes qui interagissent entre elles. Et puis, je veux juste dire aussi que pour un musée comme le MUCEM, c'est une absolue nécessité parce que j'ai parlé des pôles de collection, j'en ai évoqué un certain nombre, ce sont des pôles thématiques qui, par définition, ne peuvent pas faire l'objet, je veux dire, personne n'est un expert de corps, apparence, sexualité ou du pôle vie publique ou du pôle vie domestique. Et encore moins à une échelle euro-méditerranéenne qui suppose des connaissances de terrain, des compétences linguistiques diverses, etc. Donc c'est aussi, le musée n'a pas vocation à devenir une université, mais du coup, il a vraiment vocation, le musée, à travailler avec l'ensemble de ses chercheurs et de ses disciplines et de ses compétences différentes.
Une réaction, Pierre, peut-être ?
Oui. Oui, peut-être juste un mot, parce que je vois que le temps file, pour dire que je crois que nous redécouvrons aujourd'hui tous ensemble une évidence, c'est que les musées sont des lieux de recherche et que de nombreuses expositions s'inscrivent dans des programmes de recherche parfois au long cours et que s'établissent des relations non pas verticales entre des universitaires qui posséderaient la science infuse et puis des conservateurs qui s'occuperaient de la dimension opérationnelle, mais évidemment des relations très horizontales, de complémentarité. Et j'en veux pour preuve la première exposition, de grande taille que j'ai pu organiser, qui était en fait au musée Guimet en 2018, co-organisé avec Sophie Macariou à l'époque, il s'agissait d'une véritable collaboration où nous sommes allés voir Sophie Macariou qui, avec ses équipes, a découvert qu'elle possédait dans les fonds du musée une incroyable collection de cartes asiatiques. Et ces cartes asiatiques étaient considérées jusque-là comme des objets, des outils, disons, des outils du pouvoir, ou des outils de localisation dans l'espace, qu'on pouvait exposer, mais uniquement dans les bibliothèques, notamment à la Bibliothèque nationale de France, avec sa fameuse exposition sur les portulans. Et à ce moment-là, les conservatrices et conservateurs se sont aperçus que ces cartes étaient également des œuvres d'art. Et donc, c'est cette rencontre qui a permis d'exploiter une grande partie des cartes asiatiques que possèdent les institutions françaises, pas seulement le musée Guimet, mais aussi la bibliothèque du Collège de France, d'autres grandes institutions françaises, mais aussi européennes. Et donc, ça montre bien que pour nous, en tout cas universitaires, et pour ma part, nous avons besoin de ce partenariat avec les conservatrices et les conservateurs, les historiennes et les historiens de l'art, qui nous apportent leurs compétences et leur curiosité pour ces sujets qui ne suscitent pas forcément d'intérêt dans les universités.